Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais être d'abord, je suis heureux de revenir à Bordeaux. J'ai l'impression que je vis à Bordeaux maintenant. Et heureux d'être là dans cette librairie pour parler des 25 ans d'une collection que vous connaissez bien, qui est la collection Dictionnaire Amoureux. Alors, j'ai pris la direction de Plon il y a 2 ans maintenant. Et à ce moment-là, j'ai, parmi les soucis qui étaient les nôtres, il y avait l'idée de non seulement de préserver, mais de développer cette très belle collection. Qui donc fête ses 25 ans, qui a 170 titres à son actif, dont l'idée est née il y a donc 25 ans chez Jean-Claude Simoen, qui est le père fondateur de cette collection, mais aussi Dominique Fernandez, qui avait le sens finalement du mot amoureux par rapport à des paysages, à des territoires, à des villes, à des écrivains. Et donc cette aventure très très originale au fond qui allie le concept de dictionnaire avec le mot amoureux, ce qui ne paraît pas évident, parce que dictionnaire veut dire un peu encyclopédie, veut dire quelque chose d'un peu savant. Et c'est donc c'est un pari de nous expliquer qu'on peut être amoureux du savoir, qu'on peut être amoureux d'une certaine façon d'apprendre. Et c'est ça l'idée de ce dictionnaire. C'est un exercice donc, qui s'est imposé facilement grâce aux auteurs. Nous avons 2 auteurs ce soir qui sont Mohamed Assaoui et Pierre Assouline, que je remercie d'être présents, qui sont les 2 auteurs qui ont, dans les derniers temps, eu de beaucoup de succès à la tête de cette collection-là, enfin dans les livres qu'ils ont publiés. Et donc, l'exercice est un exercice un peu vagabond, un peu buissonnier, qui consiste à approcher de manière extrêmement personnelle et intime des sujets, pas comme le ferait un universitaire, bien que souvent. Les travaux des universitaires, évidemment, sont extrêmement importants. Et souvent, d'ailleurs, chacun d'entre vous s'appuie aussi sur les travaux d'universitaires. Mais on est au-delà. On est dans quelque chose de plus capricieux, de plus original, qui consiste à nous faire découvrir des sujets par des biais extrêmement personnels. Voilà, c'est ce qu'a fait Pierre à travers deux volumes. Un sur les écrivains et les littératures, là sur les livres et la lecture, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Et un autre sur Albert Camus, dont nous parlera Mohamed tout à l'heure. Notre souci, c'est le souci de l'équipe aussi, c'est de vraiment valoriser dans cette idée le mot amoureux. Parfois, il est arrivé dans les dernières années qu'on découvre qu'on était un peu amoureux de tout, et je considère qu'on n'est pas forcément amoureux de tout, et qu'il faut donc vraiment qu'il y ait une parfaite adéquation entre le mot dictionnaire et le mot amoureux. Donc, vous verrez dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, des idées originales qui naîtront. Il y en a une qui me plaisait beaucoup, c'est celle de François Morel, qui a fait un dictionnaire amoureux de l'inutile. Eh bien, d'abord, très beau succès. Et ça, c'est typiquement ce que je pense qu'il faut développer dans cette collection. Il faut surprendre, voilà, surprendre chaque fois par des thèmes un peu originaux, et tout en restant proche des écrivains, tout en restant proche de tout ce qui, évidemment, relève du domaine de la culture, de la connaissance. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous couvrons aussi un territoire très large. Mais l'idée, c'est de surprendre chaque fois par des thèmes tout à fait singuliers. Voilà, donc je vais passer la parole à nos 2 auteurs et à vous pour les interroger. Je vais timidement me mettre dans mon petit devant, vous écouter. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à cette collection. Et à Mola, mais ça, Mola, vous êtes fidèle à Mola tous les soirs pratiquement, donc ça va. Merci, à très vite.
Effectivement, nous sommes avec Mohamed Aissaoui et vous, Pierre Assouline, pour le dictionnaire amoureux de Camus et le dictionnaire amoureux des livres et de la lecture, donc aux éditions Plon. Quelle est votre définition de la littérature à tous les deux?
Il a fait un dictionnaire, donc je laisse. On en a pour 3 heures.
Soit un mot, soit toute la journée.
On va choisir un mot, alors.
Enfin, 3. C'est ce qui nous aide à être meilleurs.
Et moi, je le remplacerai par le mot vivre.
C'est ce qui m'aide à vivre. Mohamed Aissaoui, vous dites que vous avez toujours un livre de Camus sur vous. Lequel avez-vous sur vous aujourd'hui?
J'ai les deux recueils de poésie, de nouvelles que j'aime feuilleter, notamment L'envers et l'endroit, qui est son premier recueil de nouvelles, qu'il avait publié chez un petit éditeur algérois. Et puis les noces à Tipaza, notamment l'été. Voilà.
Et vous, Pierre Assouline, vous avez toujours un livre sur vous?
Toujours. Alors, je peux vous dire lequel j'ai dans mon sac, là.
Oui.
Parce que je travaille dessus pour un article pour la revue d'Histoire où je travaille. Et c'est la réédition de Arthur Koestler aux éditions Calman-Lévy, parce que c'est l'anniversaire de sa naissance. Et donc, il y a des rééditions un peu partout. Et c'est un grand penseur, mais qui est entré au purgatoire après sa mort, mais comme tout le monde. Sauf qu'il n'en est pas sorti, et c'est très injuste. Et ce que je lis, notamment, parce qu'il y a 5 livres hein, qui sont réédités, c'est « La lie de la terre ». C'est autobiographique, hein, sur toutes les prisons, les camps de concentration, les camps de travail dans lesquels il a été, parce qu'il avait été communiste et ensuite anticommuniste. Et donc, il a tout eu. Et c'est vraiment un penseur intéressant, un penseur du totalitarisme, et c'est d'une grande actualité. Je voudrais juste faire un complément à ce qu'a dit Jean-Luc Barré, le best-seller de la collection, on y sera sensible ici, Dictionnaire amoureux, c'est le Dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot.
Je pensais que vous alliez parler du Dictionnaire amoureux de la librairie Mola par Denis Mola.
Ah bah. Non, mais ça, c'est ce que je comptais dire. Oui, voilà, voilà.
Voilà, donc on va le montrer. Tout le monde l'a vu. Eh bien, je le garde. Donc, c'est une soirée où on va parler beaucoup d'amour, puisque finalement, la littérature, c'est aussi ce vecteur-là. Il est aussi question d'émotions fortes, à commencer par celle-ci. Et de l'amour, il en a presque été question chez Camus. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre dictionnaire, Mohamed Aissaoui.
Mais oui, parce que Camus, comme ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'au lieu de dire « je veux publier un premier roman », comme la plupart des auteurs en herbe, il a pensé à 3 cycles. Le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte, et je dirais tout à l'heure quel est ce 3e cycle. Et donc, il a imposé, alors qu'il était un auteur inconnu, à Gallimard de publier dans ce 1er cycle de l'absurde L'étranger comme roman, Le mythe de Sisyphe comme essai et Caligula comme pièce de théâtre. À chaque cycle, il y avait ces 3 genres qu'il affectionnait particulièrement. Il y a eu le cycle de la révolte et le 3e cycle, malheureusement, il est parti trop tôt, 1960, c'était le cycle de l'amour qu'il avait commencé avec notamment le premier homme. Et ces 3 cycles, l'absurde, l'amour, la révolte, l'amour, voilà, moi, il me manque l'amour. Et c'est ce que je cherche à retrouver dans chacun de ces mots, dans chacun de ces textes, de ces romans, de ces essais, de ces pièces de théâtre.
Et en même temps, vous dites que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la dimension sensuelle de l'écriture de Camus, c'est ce que vous dites dans ce dictionnaire. Et il est beaucoup question du corps et des lieux. Et on va y revenir parce que dans votre dictionnaire aussi, Pierre Assouline, il est beaucoup question du lieu et du corps. Et donc, voilà, en tout cas pour l'amour, voilà, je commence par vous, Mohamed Aissaoui, il y a cette dimension-là.
Bien sûr, il n'a jamais écrit de scènes érotiques, mais la sensualité était partout, et notamment dans ses recueils de nouvelles que j'invite vraiment à connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, ou en tout cas, c'est là où il était, je le trouvais, le plus autobiographique. Dans L'étranger, il est évident qu'il n'est pas Meursault, parce qu'on a souvent comparé l'auteur et le narrateur. Moi, je me dis que dans L'étranger, Camus, c'est Marie. C'est la chérie de Meursault, c'est celle qui exalte l'amour, qui est sensuelle, qui veut la vie, qui veut se marier, etc. C'est l'anti-indifférence de Meursault. Voilà où peut se nicher parfois un écrivain dans un rôle, dans un personnage secondaire. Mais j'adore la sensualité qu'il exalte dans la nature, quand il évoque le soleil, etc. Le soleil, dans L'étranger, c'est... C'est la cause du meurtre. Oui, voilà. Oui. Et donc, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément. Je trouve que c'est dans ces nouvelles et dans certains textes où, justement, c'est un styliste extraordinaire. On a tendance à résumer Camus à l'auteur engagé. Or, c'est un énorme, un formidable styliste.
Et vous lui rendez hommage avec une écriture dans ce dictionnaire d'une grande délicatesse et j'ai presque envie de dire d'une grande tendresse. Et donc au sujet de ce rapport au corps, il en est beaucoup question dans la littérature. Effectivement, de fait, j'ai envie de dire. Et ça, on le sent dans votre dictionnaire, Pierre Assouline, pour deux raisons. La première, sur ce que la littérature nous fait physiquement, d'une part, et d'autre part, parce que dans votre dictionnaire, vous évoquez les maisons d'édition. Vous nous invitez aussi, finalement, à réfléchir, et c'est intéressant, cette histoire de maison, les maisons d'écrivains, les bibliothèques d'écrivains, le café ou les cafés, les comités de lecture qui se retrouvent forcément quelque part.
Le restaurant aussi.
Voilà.
Les donc, prix littéraires.
Vous parlez beaucoup de lieu et donc du corps, du rapport au corps
mais
et au livre.
Pour parler du corps, le premier corps auquel je pense, c'est le corps de l'écrivain, quand il écrit. Parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est fatigant. Vous savez, quand deux écrivains se rencontrent sur le boulevard Saint-Germain, au hasard, hein, et qui se connaissent et qui ils bavardent, les gens se disent, oh là là, ils doivent parler de littérature, de Thomas Mann, qu'ils ont lu la veille. Non, ils parlent de leurs problèmes d'arthrose. Parce que c'est quand on écrit...
La tendinite aussi ?
Ça, oui. Mais c'est rien, la tendinite, par rapport à l'arthrose. Si vous voulez, je peux vous parler de l'arthrose toute la soirée.
On peut faire une soirée médicale, si vous voulez.
Non, mais c'est un vrai sujet. Parce que quand on écrit, d'une manière générale, on est assis et on se tient mal. Mais quand on écrit un livre, on est tellement dans une tension, on est tellement absorbé par ce qu'on écrit, contrairement, par exemple, à une secrétaire ou un secrétaire qui écrit, qui tape un texte administratif qui est à distance. Mais quand on écrit un roman ou un essai, on est tellement emporté par ce qu'on écrit qu'on se tient mal, on est tordu et on n'y pense même pas. Et le résultat des courses, c'est qu'au bout de 3 mois d'écriture, eh bien, on a des gros problèmes. Et quand on enchaîne les livres, on a des gros problèmes pendant longtemps. Philip Roth, quand on le voit dans les documentaires, il est devant, non pas un gueuloir, mais devant une sorte de pupitre, comme ça, pour écrire debout. Il écrivait debout, parce qu'il ne pouvait plus écrire normalement.
Et vous racontez, vous êtes allé voir sa bibliothèque
De Philip Roth ?
Oui.
Ah bon ? Vous êtes sûr que c'est lui ?
Oui, vous racontez aussi que, enfin, dans ce livre, vous racontez aussi, vous nous donnez à tous envie d'aller à Buenos Aires où il y a le plus de librairies.
Oui, non, je décris la bibliothèque en fait, parce qu'il a fait don à sa ville natale, Newark, à côté de New York, qui est une petite ville. Il a fait don de sa bibliothèque, de ses archives, et donc on y trouve tout.
Vous êtes bien allé le voir, j'ai pas.
Oui. Non, mais
vous vous souvenez que
vous l'avez écrit, chez lui, c'est pas chez lui, oui.
Ah, oui.
C'est ce qu'il a légué après. Mais non, mais de manière générale, ça m'intéresse beaucoup aux bibliothèques des gens. Et je vais vous faire un secret, mais qui est dans mon livre. Hein. Quand je vais interviewer quelqu'un, un écrivain ou quelqu'un d'autre, peu importe, j'ai fait beaucoup d'interviews depuis 40 ans de journalisme. À un moment, je demande toujours d'aller aux toilettes. Pour aller, j'en profite pour aller visiter un peu l'appartement. Et un jour, il y a de cela assez longtemps, je crois qu'il était député européen, on m'avait demandé d'écrire un portrait de Jean-Marie Le Pen. Et donc, j'étais à Montretout, à Saint-Cloud, et il m'a donné une occasion à discuter, c'était très bien, mais le téléphone sonnait tout le temps, il répondait. Donc, à un moment, je me suis levé, et comme c'était son bureau, je regarde derrière lui, il y avait la bibliothèque. Or, quand on connaît la bibliothèque de quelqu'un, on connaît la personne. On voit ce qu'il y a et on voit ce qu'il n'y a pas. Et donc, je regarde, pendant qu'il téléphonait, il me dit « Oui, regardez, lui, il téléphonait. » Et je regarde et je vois Brasillac, Maurras, l'OAS, la guerre d'Algérie. Tout. Bon, je lui dis c'est la bibliothèque de Le Pen, rien d'extraordinaire. Et donc, je vais raconter que ces lectures, c'est les lectures qu'on attend d'un nationaliste et d'un homme de droite. Puis, je dis, je peux aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et là, qu'est-ce que je vois ? Dans les toilettes sont tapissées de livres d'une seule collection, qui n'est pas le dictionnaire amoureux, hein, soyez rassurés, d'une seule collection, qui est la série noire. La série noire du premier, donc initiée par Duhamel, du premier au tout dernier, il y en avait partout, une collection unique. Et quand je reviens, je lui dis, mais vous aimez les polars ? Il me dit, mais je n'aime que ça. Et donc, vous voyez,
il faut toujours aller aux toilettes. Je suis encore plus inquiète, là.
Et l'autre qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'un jour, j'ai été chez Jean-Luc Godard à Rolles, en Suisse, au bord du lac Léman. Et il est allé, à un moment, je suis arrivé, bon, je vous passe les détails, mais je les raconte en long, en large, parce que c'est quand même un type un peu spécial, hein, Godard. Et quand je suis arrivé, il m'a planté devant la télé, il m'a dit, regardez mon dernier film, je suis au montage, moi, je vais faire les courses à la Migros. Et il prend son caddie, il s'en va. Bon, pourquoi pas, hein. Et je regarde le film qui était extraordinaire. Puis je me lève, il y avait la bibliothèque. Et là, qu'est-ce que je vois ? Maurras, Brasillac, Bardèche, Céline. Mais c'est pas possible, ça recommence.
Et la série noire ou pas ?
Non, il n'y avait pas de série noire. Mais il y avait tous les classiques, les mêmes que chez Le Pen. Alors, vous savez que Godard, c'est quand même, soi-disant, le maoïsme en action. Et alors, quand il revient avec son caddie, là, il me dit « Ah, vous regardez mes livres, hein, c'est intéressant. » Je dis « Oui, mais je suis un peu surpris quand même. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Et il me dit « Mais vous savez, je suis né dans une famille nationaliste d'extrême droite. C'était mes livres de jeunesse. Je m'en suis jamais séparé, parce que c'est ça qui m'a nourri. Et j'en suis jamais sorti. »
Et à ce propos, vous dites aussi dans votre dictionnaire que vous préférez les gens qui ne lisent pas que les gens qui lisent mal.
Oh. Écoutez, tout le monde lit mal à un moment ou à un autre. Pour moi, le plus important, que ce soit dans une œuvre ou dans un livre, c'est ce qu'on en retire. Je ne parle jamais, à propos d'un écrivain, de l'œuvre de l'écrivain. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être tel livre, mais pas tel autre de l'écrivain. Les gens qui disent « j'adore Thomas Mann », oui, mais Thomas Mann a écrit tellement de choses, tellement différentes, que le prendre comme ça en masse... Je préfère quelqu'un qui me dise « j'adore Mort à Venise » et qu'on parle de Mort à Venise ou des Buddenbrook. Mais tout Thomas Mann, je trouve ça non pas suspect, mais bizarre. Moi, je pense toujours que quand je vais à une conférence, comme ce soir, quand je vais à une conférence, je ne vais pas retenir tout ce qui a été dit. Mais si je repars avec une phrase, je suis content. Et quand je repars d'un livre, je suis content. Il y a une phrase du premier homme de Camus qui ne me quitte pas.
C'est laquelle ?
Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Oui. On peut parler pendant des heures et des heures parce que ça devrait nous guider tous les jours dans nos engagements, nos attitudes, nos convictions. J'y pense parce que j'ai lu le procès. Il y a différents procès de meurtre en ce moment. Et quand on lit les comptes rendus, on est effrayé par la folie, la barbarie de l'acte. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, je repense toujours à cette phrase de Camus. Un homme ou une femme, hein, puisque ça s'empêche.
Et vous, Mohamed Aïssaoui, quelle est la phrase ou la première phrase qui vous vient à l'esprit là ? J'imagine qu'il y en a
Oula.
Mille.
Sur Camus ou
Oui, celle-là qui vous accompagnerait aujourd'hui, par exemple.
Là, instinctivement, parce que c'est tellement difficile de répondre à ce type de questions, c'est peut-être dans la dernière page de La Peste, où il dit que le narrateur dit que il a appris. J'essaie de retrouver parce que c'est compliqué exactement. Que les fléaux lui ont appris qu'il y a plus de choses à admirer chez l'homme qu'à mépriser. Voilà. C'est le côté, vraiment, malgré tout ce qui peut se passer, garder cette espérance, cette foi.
Et dans votre bibliothèque, vous, on l'apprend en lisant votre dictionnaire, il y a non seulement, évidemment, tout Camus, mais en plusieurs éditions différentes, en plusieurs exemplaires. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas un fan pour rien, vous n'êtes pas l'auteur de ce dictionnaire pour rien. Et quand vous évoquez cette phrase, vous évoquez un autre point qui apparaît dans votre dictionnaire, c'est les lettres que Camus va écrire sous l'occupation, et dans lesquelles il raconte qu'il existe deux visions du monde. Moi, ça m'a fait penser à Joyce Carol Oates et à son livre des martyrs américains.
Oui, 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 c'est vrai.
À cette dimension politique.
Mais Camus, tout, vraiment, aussi bien un passage dans une nouvelle que dans un essai qui est spécifiquement qui peut être sur l'engagement, sur la révolte qu'on a évoqué, il y a tout le temps cette double dimension humaine et engagée, tout le temps. Vous trouverez ça même dans les pièces de théâtre, Les Justes, par exemple, c'est l'humain, et est-ce que sous prétexte de défendre une cause, on tuerait des enfants, notamment donc les quatre jeunes terroristes qui veulent commettre un assassinat au nom de la liberté et de la démocratie. C'est la constance, c'est un combat contre le nihilisme. Et le nihilisme, c'est toutes les idéologies qui sont étrangères à l'homme et à la vie. C'est ça contre quoi il s'est battu, et notamment quand il a eu à combattre avec les sbires de Jean-Paul Sartre, par exemple. Donc cette double dimension, elle est partout. Elle a été, je pense, c'est sa ligne directrice. Et on le constate même dans sa vie quotidienne. Et il dit, par exemple, lui qui est philosophe, il dit que ses meilleures universités, c'était les terrains de football et les planches de théâtre. C'est là où il a appris la vie, c'est ce qu'il dit. Cet humanisme, moi, il m'a toujours aidé. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous voulez réagir, Pierre Assouline ?
Je voudrais ajouter un titre de Camus qu'on cite très rarement, parce qu'au départ, ce n'est pas un livre. C'est le discours de Suède.
Oui.
C'est-à-dire le discours qu'il a prononcé devant l'Académie suédoise pour le prix Nobel de littérature. Et comme vous le savez, c'est très inégal, hein, les discours.
Oui, bien sûr.
Il y en a certains, on ne va pas citer les auteurs, mais bon. Eh bien, celui-là est éblouissant. Le discours de Suède, c'est un des modèles quand on parle des discours devant l'Académie suédoise, dans les anthologies, etc. Il est lumineux, il dit beaucoup de choses, il reste actuel. C'est un petit livre, très fin, oui. Mais je trouve qu'il faudrait le distribuer aux lycéens.
Et vous dites qu'il reste actuel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Albert Camus reste aussi actuel et contemporain? Est-ce que c'est, par exemple, entre autres, son refus d'être associé ou de défendre une doctrine?
Je crois que là où il a gagné, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il a toujours eu le courage de la nuance. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se fourvoyait dans l'idéologie barbare et sectaire, hein, c'est-à-dire que l'idéologie, que ce soit le nazisme, le communisme, c'était presque tuer celui qui n'est pas d'accord avec nous. Et Camus, il a encore une fois tout le temps lutté contre ce nihilisme qui consiste à choisir la mort plutôt que la vie. C'est pour ça que c'était très difficile dans une période qui était extrêmement dominée, notamment par le communisme à l'époque et puis le nazisme.
La nuance, c'est-à-dire la complexité.
Bien sûr.
C'est ce qui change tout. Mais pour moi, pour répondre à votre question précisément, ce qui fait qu'il reste actuel et que ça n'a jamais changé, hein, c'est rare. Hein. Un écrivain, moi je connais que deux écrivains comme ça en France, quand on y pense, qui n'ont pas connu de purgatoire. C'est Proust, qui a eu du succès tout de suite et ça n'a fait que monter, alors que Gide, ça a descendu. Et les autres, n'en parlons pas, Bernanos, Giraudoux, etc. Enfin, on pourra en parler. Mais et puis Camus, il a connu le succès de son vivant et ça n'a fait que monter. Il suffit de voir les chiffres chez Gallimard, on voit bien. Pour répondre à votre question, ce qui fait qu'il est actuel, c'est que c'est dès le départ un écrivain universel et intemporel. D'abord grâce à un style. Le style de Camus, vous ne pouvez pas le dater. Le style de Giraudoux, vous pouvez le dater. C'est un grand professeur de Sciences Po, qui j'étais lié, Raoul Girardet, qui était un fan de Giraudoux. Il était d'une autre génération. Hein. Et je lui dis un jour, mais les Français ne lisent plus Giraudoux, on ne le trouve même pas en librairie. Et il m'a dit, il y a une raison. Giraudoux écrivait un français tellement pur, tellement un style tellement cristallin, qu'il n'y a plus de français aujourd'hui pour comprendre ce qu'il dit. Ça m'a fait de la peine hein, quand il a dit ça. Et en même temps, je me suis dit, mais il a tellement raison. Il a tellement raison. Là, chez Camus, ce style est limpide. Il est clair comme de l'eau de roche. Et je comprends qu'il ait marché il y a 50 ans, mais aujourd'hui encore, notamment auprès des jeunes. Vous n'allez jamais prendre un dictionnaire quand vous allez, même pas amoureux, pour quand vous lisez Albert Camus. Ça renvoie à aucun dictionnaire.
Si on prend l'étranger, c'est ça, moi qui m'avait fasciné quand je l'ai découvert au collège. L'étranger, il est d'une simplicité mais inouïe. C'est sujet, verbe, complément, utilisation du passé composé. Mais c'est aussi ça le style qui est incompréhensible. Il y a un mystère qui a traversé toutes les générations. L'étranger, on ne peut pas trouver plus simple. En travaillant sur ce dictionnaire amoureux, j'ai vu que Camus s'est inspiré d'un polar qui s'appelle Factorson, un fameux polar, Factorson toujours deux fois. Et je les ai lus côte à côte. Et c'est incroyable parce qu'il y avait des phrases qui pouvaient aller dans l'un comme dans l'autre.
C'est un plagiat alors.
Mais c'est, en tout cas, c'est une inspiration et il le dit. Il le dit dans ses fameux carnets qui sont extraordinaires parce que c'est ce que vous appelez en français le working in progress. La peste, c'est très simple. Ça paraît simple. C'est ça qui est inouï.
Ça paraît simple.
C'est simple.
Ce qu'on disait de Marguerite Duras en disant c'est tellement simple que ça pourrait être simpliste. Alors, pas du tout. Il n'y a rien de plus difficile que de faire simple. Mais pour faire quand même un parallèle, parce que Camus n'est pas le seul à avoir une œuvre qui soit universelle et intemporelle. Georges Simenon, oui. Bon, évidemment, j'ai un faible, hein, je lui consacre beaucoup de pages, mais Georges Simenon, il est lu dans une quarantaine de pays depuis presque un siècle. Et ça n'a jamais cessé. Il est réédité. Le commissaire Maigret est adapté à la télévision, dans les télévisions du monde entier. Je l'ai vu en japonais, c'est formidable.
Oui. C'était simple.
Il a une pipe et un chapeau, hein. Mais c'est un japonais. Ouais. Eh ben, ça marche, ça fonctionne parfaitement.
On découvre aussi dans votre dictionnaire que vous avez un faible pour Anatole France.
Mais parce qu'Anatole France n'est plus lui, alors c'est pire, ouais, que Giraudoux. Personne, je crois que c'est dans Gad Elmaleh, dans un de ses premiers sketchs, disait quand je suis arrivé à Paris, je voulais prendre comme pseudonyme Anatole France, mais c'était déjà pris. Bon, et c'est vrai qu'on n'imagine pas quelqu'un s'appeler Anatole France, hein, aujourd'hui, mais c'était un immense écrivain. Et si on veut comprendre la Révolution française, il faut lire Les Dieux ont soif, parce que c'est un roman prodigieux. Il a aussi été réédité récemment. C'est, ou même La Rôtisserie de la Reine Pédoc. Enfin, c'est un styliste. Et vous savez qui a essayé de ramener les Français au génie d'Anatole France ? Milan Kundera. Il a fallu qu'un tchèque s'en mêle dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, dans lequel il fait tout un chapitre sur Anatole France pour dire comment les Français ne se précipitent pas sur cette œuvre qui n'est même pas en livre de poche. Enfin, on a un mal fou à la trouver, alors qu'elle est brillantissime. On a toujours besoin des regards étrangers, et heureusement, on n'en manque pas, sur le patrimoine culturel ou littéraire français pour nous ramener à ce qu'on ne regarde plus.
Est-ce que finalement, Albert Camus, aujourd'hui, c'est presque plus une idée encore qu'une personne ?
Ah, il y a quand même, quand on a parlé de style, il y a quand même une personne derrière. C'est-à-dire qu'on le voit, quand on pense à Camus, on le voit. Et je me demande même, parce que votre question résonne en moi ainsi, je me demande si ce n'est pas plus une personne qu'une idée. Parce que d'abord, en tant que philosophe, il détestait les concepts. Un homme, ça s'empêche. Il parle d'abord d'homme. Et ensuite, il y a l'attitude. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, une idéologie, des concepts, etc., et se comporter en dehors de ces idées. Or, tout jeune qu'il était, rédacteur en chef de Combat, pendant l'occupation, malade, la tuberculose... était une condamnation à mort en permanence, hein, chez lui. Il écrivait dans Combat, il se battait, il embauchait des jeunes, il a aidé d'autres à publier, il a été directeur de collection qui s'appelait L'Espoir chez Gallimard, il a édité Simone Veil, il a édité René Char, son ami. C'est marrant parce que cette question-là, au départ, j'avais dit non, c'est plutôt une idée. Mais en fait, je crois que c'est d'abord l'homme, une personne.
Et puis, on entretient le mythe hein, aussi. Merci. La publication tardive de la correspondance avec Maria Cazares, ça, l'homme, là, on le voit, c'est une sensualité. Donc, tout ça. Et puis, n'oubliez pas, Camus est prescrit à l'école.
Oui.
Je veux dire, il doit une fière chandelle à l'éducation nationale, quand même. Parce qu'être prescrit à l'école, c'est quand même...
C'est vrai que c'est un soutien à la prescription. Mais Camus, ça va au-delà de la.
Oui, est-ce que ça lui rend service d'être prescrit à l'école?
Ah oui, bien sûr.
C'est énorme. Quand vous êtes un lycéen ou même un collégien et que vous êtes obligé de lire L'Étranger, ben, c'est pas une corvée. Et puis ça reste. Ce qu'on lit à 14 ans, ça reste.
C'est pas dans ce sens qu'est ma question. Est-ce que finalement, il y a des façons d'accompagner un texte? Et ça, c'est une question que vous soulevez aussi dans vos dictionnaires, tous les deux.
Je voudrais y répondre parce que, à cette question, parce que je suis persuadé. On a un peu. Pierre a parlé un peu de postérité. Camus, Proust, et puis d'autres. Qui disparaissent, alors que c'était des géants.
Purgatoire.
Mais donc, je me suis posé la question. Et évidemment, il y a des textes, mystérieusement, Maupassant, je le lis encore, et je suis toujours ébahi. Ça a traversé toutes les époques. Camus, je pense que sans le travail de sa fille, Catherine Camus, qui m'a aidé dans ce dictionnaire amoureux, je pense que sa postérité, en tout cas, n'aurait pas été telle. D'abord, la chose la plus importante, c'est qu'entre vents et marées, elle a fait publier un texte inachevé de Camus, qui est le premier homme, en 94. C'était le texte inachevé, mais complètement inachevé, parce que c'était presque illisible, qui était dans le coffre de la voiture accidentée. Et on lui a dit, oui, vous faites ça commercialement, etc. Or, ce premier homme nous a permis de voir aussi autrement quelqu'un de plus intime. Et je pense que ça a contribué à cette postérité. Vous avez cité, Pierre, la correspondance avec Maria Cazares, qui est l'une des plus belles correspondances amoureuses, je trouve. D'ailleurs, il y a une adaptation au théâtre, etc. Donc, il y a quand même un travail qui est fait parfois. La recommandation scolaire ne suffit pas parce qu'il y a d'autres qui sont recommandés et qui vont se vendre le temps de la recommandation.
Oui, mais malgré ça, faut quand même pas. Enfin, nous, on aime Camus, hein, et puis voilà. Mais il faut pas oublier, il y a des tas de gens qui le méprisent, qui l'ont toujours méprisé. Faut pas oublier, il y a eu toute une époque, les années 70. Jean-Jacques Brochier avait fait un pamphlet, Albert Camus, philosophe pour classe terminale. Ouais. Donc c'était très méprisant. C'était l'époque de Foucault, Deleuze, etc. Et puis même en tant que romancier, et même comme dramaturge, aujourd'hui vous avez beaucoup de dramaturges contemporains qui trouvent que c'est Caligula, c'est injouable, que les justes, que son théâtre n'est plus jouable. D'ailleurs, il n'est pas tellement joué. Pas tellement.
Sur cette question, dans votre dictionnaire, vous invitez Catherine Camus à répondre à cette question et elle dit qu'elle est très fière que son père soit justement un auteur de lycéens.
Parce que le pamphlet que cite Pierre, c'est philosophe pour classe terminale en 1970, je crois, donc 10 ans après la mort de Camus, ce qui n'est pas très courageux parce que la personne n'est plus là pour se défendre. Mais Catherine me dit... Mais c'est une fierté, être philosophe pour des jeunes. Ça en dit plus sur la personne qui insulte...
C'est les Sartriens.
Oui, alors sur Sartre, je vais quand même dire quelque chose, parce que je suis un peu fatigué de les voir opposés de manière permanente. Or, c'était d'abord une grande histoire d'amitié. Ça a commencé par une histoire d'amitié. D'ailleurs, Sartre a demandé, avec Simone de Beauvoir, à ce que Albert Camus mette en scène huis clos et joue un des rôles, parce qu'il était tellement beau qu'il pouvait jouer l'un des trois personnages, en tout cas l'un des deux hommes dans la pièce. Et puis, Sartre a écrit la plus belle critique de L'Étranger, une vingtaine de pages, très originale. Je reproduis quelques paragraphes. Et quand Camus est mort, Sartre a eu quand même un mot élégant, on va dire.
Entre ces deux moments, ils se sont
bien sûr. Bien sûr, mais on oublie que Camus était très combatif et c'est.
Bien sûr.
C'est lui qui a même donné le premier coup dans L'homme révolté, où il disait que j'en ai marre de ces intellectuels qui n'ont fait rien d'autre que mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Et là.
Oui, bien sûr.
Et là, Sartre, il a envoyé ses porte-flingues.
Qui sait, je trouve que si on ne veut pas tomber non plus dans une espèce de. Une image sulpicienne de Camus, hein, quand même pas exagéré, il faut toujours, quel que soit l'écrivain, comparer avec d'autres en son temps. Pas pour dire celui-là est meilleur ou pas meilleur ou d'autres, mais pour nous éviter d'être trop inconditionnel d'un auteur. Parce que c'est pour ça que moi, j'ai toujours non seulement comparé les écrivains entre eux, mais aussi avec d'autres artistes. Un écrivain, c'est un artiste. Et ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de avec son amitié avec René Char, mais même avec des peintres.
Oui.
C'est important. Ou comment il s'est frotté au cinéma, au théâtre, bien sûr, mais avec un art complètement différent. Et ça, c'est intéressant parce que les artistes ont tous les mêmes problèmes. Moi, je me rends compte. Hein, je connais beaucoup, beaucoup d'écrivains, puisque j'en ai interviewé beaucoup. Il y a beaucoup d'écho de ça dans ce livre. Mais j'ai connu aussi beaucoup de peintres et de photographes. Bien, la personne avec qui je parlais le plus de littérature, c'est Henri Cartier-Bresson, à qui j'ai été lié d'amitié. Eh bien, d'abord parce qu'il aimait la littérature, qu'il la connaissait très bien, mais en plus parce que ses problèmes de photographe étaient mes problèmes d'écrivain. Et on était sur le même terrain. Et j'ai connu ça avec des peintres. Et ça, je trouve que c'est nécessaire. Quand les critiques, très souvent, parlent d'un écrivain, ils parlent trop. Ils ne quittent pas le point de vue d'écrivain sur un écrivain. C'est un peu dommage. Il faut toujours faire un pas de côté. Cartier-Bresson disait, quand on fait un pas de côté et qu'on regarde de biais la réalité, on la voit mieux. Il avait parfaitement raison. Quand c'est frontal, quand on a un jugement d'écrivain pour écrivain, c'est comme ça que Faulkner, par exemple, ceux qui parlent de lui sont des écrivains. Moi, j'aimerais qu'un peintre nous parle de Faulkner. Ça change beaucoup de choses. Comment il voit ce que... Et c'est pour ça que cette réputation de Faulkner comme écrivain pour écrivain, elle vient de là.
Camus a adapté Faulkner. Et
vous avez vu qu'il ramène tout à Camus. Hein.
Non, non,
à
mon avis, mais parce
il est
que...
amoureux. Il est comme son dictionnaire.
Ne lâchez rien,
il est amoureux.
Vous êtes là pour ce dictionnaire.
Non, mais c'est juste dans votre dictionnaire pour parler.
T'es amoureux de Camus.
Je suis plus qu'amoureux, là. C'est... Non, mais j'ai envie de partager cet amour. Il y a un auteur qui revient souvent dans votre dictionnaire. C'est comme ça, je parle aussi de son dictionnaire. Beckett, il y a au moins 5 ou 6 entrées qui le concernent. Auteur, dramaturge.
Il est partout.
Ouais. Et pourquoi pas un dictionnaire amoureux de Beckett? Je crois que ça manque dans la collection.
Alors là, on est vraiment parti sur complètement autre chose.
Oui.
Si ça ne vous embête pas, on va continuer l'interview d'abord.
Non, mais c'était pour parler de son dictionnaire.
Bon, merci.
Il y a Beckett en maestro.
C'est un continent, Beckett. Moi, je suis un fan absolu de Beckett. Je suis allé en bas de chez lui pour inspecter sa boîte aux lettres.
Ah.
Avec une lampe de poche, parce qu'il ne voyait personne.
Non.
Mais j'ai plein d'anecdotes sur lui, parce que j'ai écrit des longs papiers. Je lui ai écrit à Beckett en lui disant « Je sais que vous ne donnez pas d'entretien à personne, mais j'ai autre chose à vous proposer pour mieux vous connaître, parce que je devais écrire 10 pages dans le magazine Lire à l'époque avec Pivot. C'était son anniversaire.
Pivot à qui vous rendez un bel hommage aussi dans ce dictionnaire.
Ah oui, c'est la moindre des choses. Hein. Et il m'avait dit, vous avez 10 pages pour cet anniversaire. Et donc, j'ai écrit à Beckett, je lui ai dit, je sais que vous ne donnez pas d'entretien, mais pour mieux vous connaître, je vous propose une partie d'échecs. Parce que c'était un fan d'échecs et moi aussi. Et quand on veut connaître quelqu'un, il faut jouer aux échecs avec lui. S'il sait jouer, hein,
bien sûr. Mais
et donc, et il m'a répondu d'une carte très simple, d'une écriture difficile à décoder, dans laquelle il disait « J'y vois presque plus ». C'était triste. J'aurais volontiers joué avec vous, mais je ne vois presque plus, je ne peux pas, etc.
Mais vous jouez aux échecs quand vous voulez connaître quelqu'un ?
Oui. Vous voulez jouer aux échecs ?
Non, je ne sais pas jouer aux échecs.
Ah bah,
Alors, qu'est-ce que ça dit de moi, du coup ?
Ah bah, vous échappez à ma règle. Hein. Si vous ne savez pas jouer aux échecs, je ne vous parle pas.
Hein. Je botte en touche. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais poser des questions à Mohamed Aissaoui. Il n'y a aucun problème, Pierre Asseline. Le terreau dont vous parliez tout à l'heure sur l'art, et donc bien sûr sur la littérature aussi, est-ce que c'est celui de la solitude que vous citez dans votre dictionnaire, qui est la solitude peuplée ? Est-ce que c'est cette question-là, et donc par là même évidemment la mort, mais d'abord la solitude ?
Ben, il en parle beaucoup, de la solitude. D'ailleurs, et de la solidarité aussi. Il lit ces deux...
Oui, parce qu'il parle de honte à ne penser qu'à soi aussi. Donc,
oui.
C'est une idée assez forte.
Mais en plus, plus qu'on parle d'artiste, dans une nouvelle, il a tenté d'expliquer ce qu'était son travail. Et d'ailleurs, dans le discours de Suède aussi, il dit que la mission d'un écrivain, c'est d'être avec ceux qui subissent l'histoire, pas ceux avec qui la font. Et ce pas de côté, cette façon d'avoir un regard différent. Alors tout ça est lié aussi à son enfance extrêmement pauvre. Quand il était jeune, il ne pensait pas que dans un roman, on pouvait parler des enfants pauvres, etc. Il l'a fait en tant que journaliste, notamment « Misère de la Kabylie », où il a dit, alors qu'il avait 21 ans, un reportage de 15 jours en Kabylie, donc il envoyait son article chaque jour, qu'un pays ne peut pas être grand s'il y a des gamins dans la rue qui meurent de faim. Donc déjà, c'était quand même quelque chose qui n'était...
Il n'y a pas de grand pays.
Mais oui, tant que...
Ça fait écho à une phrase que vous citez dans votre dictionnaire, Pierre Asseline, et qui dit que l'histoire oblige les écrivains.
L'oblige, et je reprends le mot que vous avez employé avant, solitude. Ouais. C'est dans ce livre, il est un peu partout, parce que la personne qui en parle le mieux, c'est Marguerite Duras. Elle dit bien, écrire, c'est être seul. L'écriture, la littérature, c'est la solitude. Et bien sûr que quand on écrit, on est seul. On est tout seul. On est peuplé. On a un monde fou en nous. Mais c'est une aventure en solitaire absolu. Et pas seulement parce qu'il faut du silence et de l'isolement, mais parce que personne ne peut vous aider. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, et on le fait rarement, il y a un autre exercice aussi solitaire que l'écriture, c'est la lecture. On ne peut pas écrire, je ne dis pas au milieu d'une foule, mais on ne peut pas lire un livre à plusieurs. Quand on lit, on s'isole du monde, fût-ce intérieurement, mais fût-ce aussi géographiquement, on s'isole et on lit. Et là, c'est l'acte le plus égoïste qui soit, et tant mieux. On a besoin de cet égoïsme-là, d'être seul face à un bloc de papier et de parler avec un livre, de parler à un auteur.
Vous parlez en même temps, historiquement, hein, dans votre livre, du moment où on arrête de parler en même temps en lisant.
Oui. Oui, on se tait, parce qu'on est à l'écoute de quelqu'un d'autre. Et de même qu'écrire, c'est une manière de parler sans être interrompu. Pour ça qu'on écrit. Parce qu'après, on n'arrive pas à parler sans être interrompu. Toujours des gens qui nous coupent la parole. Hein. Tu es d'accord ? En permanence, toute la journée. Et là, quand on écrit, il n'y a personne qui nous casse les pieds.
Alors justement, non, mais je suis intimement persuadé qu'un grand écrivain, c'est aussi un grand lecteur. Et sur la solitude que vous évoquez, c'est très important pour les écrivains et en tout cas, je l'ai ressenti dans le travail de Camus qui dit que finalement, quand on est écrivain, on est seul. Et j'ai vu qu'un moment d'émotion avec Catherine Camus, elle m'a raconté ça, elle avait 13 ans quand son père est mort. Et elle m'a juste dit, tu sais, Mohamed, à un moment donné, je vois papa, elle disait comme ça, qui n'avait pas l'air bien, et elle va le voir. Et c'était au moment en plus où il avait reçu le prix Nobel. Ça aurait dû être quand même un moment d'immense bonheur. Et elle le voit qui n'est pas bien, et donc elle va le voir. Tu es triste, papa? Et il lui a répondu, elle m'a dit ça exactement, je ne suis pas triste, je suis seul. Et ça, ça m'a...
Je suis seul.
Oui.
Oui. Encore faut-il toujours préciser, pardon, oui. Quand on parle de solitude, si c'est la solitude choisie,
oui.
Ou si c'est la solitude subie. C'est pas du tout la même
non,
chose.
Non, bien sûr, il y a plusieurs.
Quand problèmes. On l'a subi, c'est une catastrophe.
Mais est-ce qu'on choisit d'être écrivain? Est-ce qu'on le choisit vraiment?
Il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est de se dire un jour, tiens, je vais devenir écrivain, je vais m'établir écrivain. Non, ça, on ne choisit pas. Ça vient ou ça ne vient pas. Vous savez, il y a une phrase de... Enfin, j'écoute souvent la nuit, France Culture, c'est là que c'est le meilleur. C'est les archives.
On va tout savoir, hein, vous jouez aux échecs pour rencontrer les gens, vous avez écouté France Culture.
Ah, vous pouvez vous parler de moi toute la nuit.
Je n'en doute
la
pas.
La nuit sur France Culture, c'est les archives. J'ai travaillé très longtemps.
Il y a une entrée archive.
Oui, il y a une entrée archive. Je travaillais très longtemps à France Culture. C'est une mine. Alors, vous pouvez trouver ça en replay. Hein. Mais moi, j'aime bien écouter en direct la nuit, parfois. Et là, il y avait un entretien avec Marcel Aimé, qui lit encore Marcel Aimé aujourd'hui. Ici, tous les Bordelais connaissent Marcel Aimé, bien sûr. Mais
parce que l'exception culturelle est dans cette salle, en fait.
N'est-ce pas ? C'est réuni ce soir. Eh bien, Marcel Aimé, qui était un magnifique auteur, c'était difficile de l'interviewer. Vous savez, il était avec une tête un peu lugubre, comme ça. Il avait tout le temps une clope. Il fumait tout le temps, puis il ne parlait pas. Et ses meilleurs copains, Céline, tout ça, disaient « Il est formidable, il ne dit rien. » Bon. Et là, il y avait une interview à la radio. Et vous savez, moi, j'ai interviewé parfois des taiseux à la radio, des artistes. Il faut ramer. Hein. Et là, donc, il y avait ça. Donc, je vais écouter. Et la dame, c'était l'ORTF, la RTF à l'époque, c'est les années 50. Hein. Donc, c'est les débuts de la radio. Et elle le présente et tout. Lui, et il dit oui. Et puis bon, alors... et toutes les questions qu'elle lui pose, il répond par oui ou par non. Vous savez, pour un journaliste, c'est un cauchemar.
Je vois très bien de quoi vous parlez. Ça ne va pas nous arriver ce soir, je crois.
Non, ce soir, non. Ce soir, non, on ne vous laisse pas parler. Et on l'entendait ramer, la pauvre, je me mettais à sa place. Et à un moment, elle s'énerve un peu, elle dit... Puis on entend la cigarette, en plus. Et puis, à un moment, elle dit... Bon, mais, monsieur Marcel Aimé, mais quand vous vous mettez à votre bureau et que vous prenez une page blanche... Et votre stylo, qu'est-ce que vous faites? Elle attend un long développement. Et là, on entend la cigarette et puis la réflexion, donc des longs silences. À la radio, c'est terrible. Et il dit, j'attends que ça vienne. Mais c'est ça, l'écriture, c'est ça.
Ça, c'est vraiment une définition intéressante sur la solitude, hein, d'ailleurs. Oui. Finalement, c'est une réflexion à méditer presque. Hein.
J'attends que ça vienne. Ouais.
Alors, est-ce que Camus a finalement changé ou nous invite à interpréter autrement la dimension de l'absurde et du tragique dans la vie?
Je pense, et de la révolte d'ailleurs, parce que souvent on pense que la révolte, c'est dire non. Et lui pousse sa réflexion, notamment dans l'homme révolté. Pour lui, la révolte, c'est de dire oui. Et quand il parle d'absurde, notamment dans le premier cycle, c'est toujours pour nous faire comprendre que, évidemment, on connaît tous qu'est-ce que l'absurdité, c'est-à-dire à quoi ça sert de vivre, puisqu'on sait qu'on va mourir. Et c'est sur cet espace-là où il exalte le présent, et notamment dans les nouvelles, il exalte la vie, il exalte l'homme, il exalte la sensualité. Et on le voit vraiment, parce que, par exemple, dans L'étranger, qui est quand même le summum de l'absurdité, de cet homme qui est indifférent à la vie et à l'amour, c'est ce qu'il voulait absolument montrer à travers ce personnage, justement, que pour lutter contre cette absurdité, c'est de dire oui à la vie, le peu qu'on puisse y passer du temps, oui à l'amour, oui aux êtres. C'est ça que je trouve fort, et c'est ce message, je pense, qui explique aussi pourquoi Camus continue d'attirer les jeunes. Et ça, c'est fantastique.
Il attire aussi les jeunes parce que c'est un fou de football. Et ce qui était intéressant, et moi, ça me renvoie à un livre de Peter Handke, je crois que c'était La solitude du gardien de but au moment du pénalty. Oui. Et c'est un gardien de but. Quand on choisit, quand on aime le football pour jouer et qu'on choisit d'être gardien de but, vous savez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas joueur, hein, c'est autre chose. Un gardien de but, il prend des coups. Hein, il défend, mais il défend une maison. Enfin, c'est une psychologie très particulière, le gardien.
C'est très
de but.
Vrai.
C'est pas du tout un joueur du terrain.
Vous jouez au foot ?
Ouais, pas du tout.
Pas du tout.
Mais j'adore.
Vous êtes un grand amateur.
Je m'intéresse à du sport.
De sport.
Pas de football.
De nage, par exemple, puisque vous avez écrit un livre extraordinaire.
Merci.
Mes livres préférés. Il s'appelle Le Nageur.
Mais alors, je peux vous demander un service ? C'est pas une critique. Hein. Mais je le fais à chaque fois parce que tout le monde fait la faute.
C'est le meilleur.
Ce n'est pas la nage. La nage, oui. C'est le crawl, c'est la brasse, c'est la natation. Oui, oui. La nage, c'est barboter.
Excusez-moi. Bien, vous avez raison.
Oui, la natation, c'est la discipline.
Oui.
Et les gens font toujours des erreurs. Mais oui, non, c'est le sport. Mais c'est pas le football. Moi, c'est le rugby. Voilà. On est à Bordeaux. Hein. Oui, c'est le rugby.
Très bien.
Oui, ils ont une très bonne équipe du foot, que malheureusement.
Voilà. Est-ce que parce que c'est pas facile d'essayer de tenir le cap, en tout cas le fil sur Albert Camus en faisant diversion par les échecs, la natation, mais on s'y accroche.
J'avais du mérite.
Oui, je trouve aussi. Est-ce que finalement les lecteurs de Camus, les amateurs de Camus sont des gens qui aiment envisager la vie comme un défi?
En tout cas, quand quelqu'un aime Camus, je l'aime. Voilà.
Oui, c'est ce que vous dites dans votre dictionnaire.
Voilà. Je ne saurais dire pourquoi. Pierre a parlé de football. Je pense que effectivement, c'est une école de la vie comme tout sport collectif. Camus disait que quand on est gardien de but, ça nous apprend beaucoup parce que on ne sait jamais de quel côté va arriver la balle, le ballon. Donc,
c'est pas que les sports collectifs qui sont à l'école de la vie, sport individuel. La natation est un sport individuel et aussi par équipe. La plupart des sports individuels se jouent aussi par équipe. Hein, donc,
oui, c'est
ça
vrai.
Développe un esprit.
Mais dans une équipe, quand c'est un sport collectif de vous apprenez forcément. Moi, j'aime beaucoup le sport individuel aussi. Hein, c'est vraiment le dépassement de soi, etc. Dans une équipe, vous savez qu'il y en a. Par exemple, vous arrivez dans une équipe de foot, et ben, on vous met remplaçant au début, et puis après, vous essayez de gagner votre place. Après, vous dites que celui-là, ben, c'est un attaquant, l'autre était défenseur. Donc, il y a toute une alchimie qui vous apprend la vie. Et surtout, ce que vous apprenez, c'est que dans une équipe, avec les remplaçants, on est 15-16, il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas dans l'alchimie pour que ça ne marche pas.
Oui, mais il y a des sports où c'est beaucoup plus grave. Parce que moi, j'ai fait 10 ans d'aviron.
Oui.
S'il y en a un, dans un bateau du 8, s'il y en a un dont l'appel vrille dans l'eau... C'est tout le monde qui se retrouve à l'eau.
C'est ça.
Alors qu'au football, s'il y en a un qui va pas, bon ben on comprend. D'abord, on peut le remplacer.
Non, mais je parle même mentalement.
Le coach.
Même mentalement.
Oui, même mentalement.
On peut pourrir. Le coach.
Messieurs, vous êtes sur une soirée des dictionnaires amoureux de la littérature d'Albert Camus.
Non, mais vous êtes nageuse.
Moi, je propose qu'on revienne à vous.
Si non, non, mais vous.
Parce que je suis ravie. Hein,
vous avez parlé
de la nage ou de la natation.
Vous avez parlé du nageur tout à l'heure.
Je vais reposer ma question. En quoi est-ce que Albert Camus, ou la littérature d'ailleurs, nous invite à penser la vie comme un défi?
Moi, le mot défi me renvoie à ce qu'a dit tout à l'heure Mohamed, et je n'étais pas entièrement d'accord. Tu as dit le oui, l'acquiescement à la vie, le oui. Et on se définit surtout par le oui. Moi, je suis plus proche du non. Je pense que le non est plus important. Je pense qu'on acquiert sa liberté quand on dit non. Quand on dirige une équipe, par exemple, une rédaction, en tant que journaliste, ça m'est arrivé, et à la radio ou dans la presse écrite ou dans le sport, eh bien, on doit dire non 50 fois par jour. Si on y arrive dès le départ en disant non, et on est sollicité du matin au soir, ou quand on dirige une maison d'édition, si on ne sait pas dire non, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non parce que parce que ça crée une tension et que personne n'aime les conflits, la tension. Eh bien, ceux qui n'arrivent pas à dire non ne peuvent pas diriger. Et moi, ça a été ce que j'ai appris dans le sport dès le départ, c'est à refuser, à dire non. Et pour moi, c'est dans un livre que je termine là, il y a un chapitre qui s'intitule « Non ». Et le nom pour moi qui m'a le plus formé, constitué, c'est le nom, le premier nom du premier résistant de France, de Jean Moulin. Quand en juin 40, préfet de Chartres, il dit non au moment où les Allemands lui demandent de signer une lettre accusatoire qui est un faux. Et il dit non. Et c'est son premier acte de résistance. Et de même que peu après, quand on demande à l'ensemble des magistrats français de prêter serment au maréchal Pétain, il y en a, ce qui est quand même un déni de justice, hein, c'est le contraire de leur vocation, il y a une séparation des pouvoirs, eh bien, il n'y en a qu'un qui dit non. Il y a un seul juge qui dit « je ne peux pas, pas parce que je suis anti-maréchaliste ou anti-Pétain ou anti-vichiste, je ne peux pas parce que si j'ai choisi ce métier, c'est parce que justement, il y a cette indépendance et donc je ne peux pas prêter serment au chef de l'État, quel qu'il soit. Ben, » oser dire non ce jour-là, et se distinguer de l'ensemble des magistrats français, je veux dire, c'est exceptionnel. Il faut un courage, il faut... Bon, après, il y a l'histoire...
Mohamed Aïssaoui, je vous propose le mot de la fin.
Non.
Oui. L'homme, il y a un exercice qu'a fait Camus, que je vous invite à faire, c'est choisir ses 10 mots préférés.
Oui, qui sont dans votre dictionnaire. Enfin, oui. En tout cas, Catherine Camus vous a livré les 10 mots préférés d'Albert Camus.
Oui, qui sont, je les ai notés, le monde, la douleur, la terre, la mer, les hommes, le désert, l'honneur, la misère, l'été. Et elle me dit la mer, je dis, mais t'as déjà dit la mer. Elle fait non, la mer, l'océan. Et je trouve que essayer de choisir vos 10 mots préférés, ça fait une sorte d'autobiographie. C'est un exercice qui est passionnant. Voilà.
Juste un mot.
Mais bien sûr, puisqu'on a dit que c'était le mot de la fin à Mohamed Aïssaoui. Ben voilà. Je vous en prie, Pierre Assouline.
Non, mais je rebondis sur ce qu'il a dit. Le mot misère, grâce à Camus, je ne parle jamais de la misère, nulle part, dans aucun livre. Et quand dans une conversation, on m'en parle et qu'on me demande d'en parler ou dans une conférence, je n'en parle jamais parce qu'il y a une phrase de Camus qui me revient. Nous sommes quelques-uns à ne pas supporter que l'on parle de la misère autrement qu'en connaissance de cause.
Et là, spontanément, comme ça, quels sont les premiers mots qui vous viendraient à l'esprit si vous deviez faire votre liste, peut-être pas 10, mais est-ce qu'il y a quelques mots qui seraient des mots vraiment très importants dans votre vie à tous les deux, qui pourraient vous raconter un peu de vous ?
L'amour.
L'amour ?
Oui, il y a tout dans l'amour.
Et vous, Pierre Assouline ?
Pareil. Hein. C'est, non, mais il y a bien sûr.
C'est marrant, moi j'aurais pensé à blagueur, par exemple.
Blagueur.
Ou nage.
Non, vous voulez.
Ou nage. Oui,
natation.
Nage.
Natation. Mais non.
Non.
Ça. Non. Ah oui, non. Non, c'est bien, non. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous, merci.